Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec le carnaval de la critique. Fabienne Pascoe de Télérama avec tous ses bracelets, Fabienne Darge, l'autre Fabienne du Monde, Gilles Costaz de Politis, Jacques Nerson de l'Obs pour parler notamment du carnaval de Goldeny, mais également de Bajazet qui mêle Racine à Artaud, d'architecture de Pascal Rambert dont nous avions déjà parlé au Festival d'Avignon, Nous pour un moment d'Arne Ligre, de Philippe Cobert qui revient au rond-point, du nouveau spectacle des Chiens de Navarre et même de Madame Zola. J'espère qu'on pourra évoquer tous ces spectacles dans le courrier de la semaine. Camille Fievé est en colère, elle a vu à la colline, mais pas vous je crois, hein, mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, fruit de la collaboration de Wajdi Mouawad et de Arthur H. Et Camille nous dit « J'ai subi 3h30 de spectacle digne d'une fin d'année de MJC, tout le monde joue mal, j'adore Wajdi Mouawad et je lui en veux de m'avoir fait payer 30€ pour voir des acteurs qui butent sur chaque mot et qui réussissent à être faux à 100% du temps. Élucidez ce mystère s'il vous plaît, malheureusement les critiques sans doute vous ont lu avant d'y aller puisqu'ils n'y sont pas allés. Jacqueline n'est pas contente non plus mais pour une autre raison et on la comprend. Cher Masque, j'ai écouté avec attention vos recommandations pour La puce à l'oreille de Feydeau jouée à la Comédie française mais tout est complet. Alors combien de déçus allez-vous faire? Merci de vérifier avant de nous donner envie. C'est, ah oui, je vois que le public
ça sera repris la saison prochaine.
Du théâtre. Oui, mais ça c'est pas vraiment un argument recevable. C'est complet, c'est vrai. Oui, je vois que tous les visages opinent au théâtre de l'Alliance française. Non, c'est un problème. Bon, c'est bien que ça soit un succès, mais on peut pas forcément savoir quand on en parle si c'est à guichet fermé. Vous ne dites rien, non, les critiques.
Non, mais la durée des spectacles est tellement longue à la Comédie française. Je reprends ce que vient de dire Fabienne Darge, mais c'est vrai qu'il ne faut pas désespérer.
Théâtre. Oui, c'est vrai. Donc vous pourrez le voir en 2025. Cathy de la Carène Colombe. Cathy de la Carène Colombe, contrairement au masque, applaudit au juste d'Albert Camus. J'ai adoré l'investissement des comédiens et l'originalité de la mise en scène d'Adal Malik. Liliane Marguly de Marseille remercie le masque de m'avoir incité à aller voir le Galilée, interprété par Philippe Torreton. Une vraie bonne soirée de théâtre, ce qui est rare. À Marseille, j'ai trouvé la mise en scène peut-être un peu lourde dans ses suggestions, mais nécessaire pour rappeler aux plus jeunes la réalité politique de Brecht. Continuez, c'est un bonheur de vous écouter le dimanche soir où Aline Desplantes de Lyon, qui vient de voir au Célestin le spectacle de Bob Wilson sur Marie Stuart. Cher compagnon du dimanche soir, j'ai vu Marie Said, What She Said, je rejoins Jacques. On ne comprend rien à ce que dit Isabelle Huppert, ça c'est vrai. Le micro dérange et si on ne connaît pas son histoire de France et d'Écosse, on comprend encore moins bien. Toutefois, l'émotion naît malgré tout. Isabelle Huppert fait une prestation incroyable et la musique est magnifique. Non, Jérôme, ce n'est pas de la musique de supermarché. Merci à vous pour la joie du dimanche soir. Je pense quand même que c'est une musique de supermarché. Rémi Jouvin qui joue dans pour un nom de Nathalie Sarraud, donc comédien aux abesses, est choqué d'avoir entendu des mots comme scolaire, daté, non conseillé. Rilke avait raison quand il écrivait pour aborder les œuvres d'art. Rien n'est pire que la critique, l'amour seul peut les saisir. Sinon, Pierre Cuzor a vu et aimé Barbara, un jardin de silence, mis en scène par Thomas Joly à la Scala, avec Raphaël Lanader, un très beau spectacle. Vous l'avez vu, non? Ça non plus? Vous voyez rien, vous. Et enfin, je demandais pourquoi si peu d'auteurs contemporains sur scène ces temps-ci. Mathieu Fabre répond avec un auteur uruguayen que je ne connaissais pas, Gabriel Calderón. Donc, Crève tous les protagonistes est présenté au Théâtre 13. Madame Le Gan nous conseille un spectacle émouvant au Théâtre La Flèche, bien arrivé à Ottawa. Vous l'avez vu, ça, de Tatiana Gousseff, joué par Marie Théblot, le parcours d'une actrice bretonne qui monte à Paris. Un difficile chemin quand on n'est pas célèbre. Ou encore Mao Bouticourt, qui lui travaille aux éditions théâtrales et qui me dit À défaut d'être toujours montés, les auteurs contemporains sont publiés. On peut les trouver en librairie, on peut acheter leurs pièces, notamment l'Israélien Hanok Levin, récemment monté par Varlikovsky à Chaillot. Je ne sais pas si les textes publiés sont une réponse à la question qu'on posait. Alors justement, Christian Bach nous écrit à la fin du masque, vos critiques ont eu l'amabilité de citer Anne Richterie de Kelly Rivière et Place de Tamara Al-Saadi. Je suis heureux de vous faire savoir que ces deux textes viennent de paraître aux éditions Koïné, jeune maison d'édition exclusivement dédiée aux textes de théâtre contemporain. Enfin, suite au débat pour savoir si oui ou non Elephant Man avec Joe Starr et Béatrice Dalle avait déjà été monté, eh bien Isabelle de Charenton nous dit « Je peux vous confirmer avoir vu Elephant Man dans les années 80 dans une petite salle du 94, Alfortville ou Maison Alfort. Je m'en souviens encore comme un spectacle provoquant des émotions fortes. » Voilà pour le courrier éloquent du moment. On avait déjà parlé, je le disais, en juillet dernier, après l'avoir vu dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon. Et il se donne jusqu'au 22 décembre au Bouffes du Nord avant de continuer sa longue tournée en France et architecture. Le spectacle écrit et mis en scène par Pascal Rambert avec Emmanuel Béard, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdan, Arthur Nosiciel, Stanislas Nordet, Denis Podalides, alors c'est en alternance avec Pascal Rénéric, Laurent Poitrenaud, Bérénice Vanvinck et Jacques Weber, pièce qui couvre dans l'Europe des nationalisme et du totalitarisme, la période de 1910-38, et qui réunit les membres d'une famille viennoise. L'histoire commence en Autriche-Hongrie en 1911 exactement, pour se terminer avec l'Anschluss, et s'articule principalement autour du personnage de Jacques Weber, architecte connu dans tout l'Empire, qui règne en despote sur sa famille. Moi, je me souviens d'une chose, c'est que c'était très long, que du point de vue historique, j'avais pas appris grand-chose, mais peut-être que depuis, ne l'ayant pas revu, ça a évolué. Fabienne Darche, qui n'était pas au Masque d'Avignon, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Je n'étais pas au Masque, mais j'étais à Avignon. Je n'ai pas revu le spectacle depuis. Hein, donc je parle depuis la représentation, depuis la première d'Avignon. C'est vrai que l'impression générale a été quand même d'un spectacle assez interminable et assez ennuyeux, où on avait du mal à discerner le dessin véritable et général de la pièce, l'impression que les personnages n'étaient pas vraiment écrits, que du coup ces acteurs qui sont quand même des acteurs absolument magnifiques, là il y a une distribution quand même éblouissante, à part Stanislas Nordet, moi j'ai trouvé qu'il arrivait à faire une sorte de partition personnelle très étonnante et très touchante sur le mode du fils rebelle contre le père. Les acteurs étaient perdus globalement, encore une fois parce que leurs personnages ne sont pas écrits, parce que cette pièce est en grande partie un empilement de monologues qui sont pas vraiment boulonnés entre eux.
Le personnage de Weber était quand même plus saillant, plus important, je trouve, que les autres, non ?
Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était un peu facile. Pourtant, le mode du patriarche du XXe siècle, très autoritaire et qui a tout dans les mains, le métier, en l'occurrence l'architecture, mais qui est évidemment une métaphore, bon, ça paraissait bien campé, mais finalement, je trouve que là-dedans, les choses essayent à la fois d'être bien campées et à la fois elles fuient. Enfin,
bon.
Voilà.
Gilles.
Bon, il est peu probable que j'y retourne. On va rester sur les souvenirs parce qu'on a passé quand même une soirée assez éprouvante. Oui. Alors, en fait, il a enlevé une heure sur le.
Moi, à Avignon, c'était 4 heures presque.
Oui, hein. Maintenant, c'est plus que 3 heures, 2h55 sur le.
Ah oui, donc il a beaucoup réduit alors.
Voilà, donc on peut penser que ça sera plus nerveux. Moi, personnellement, c'est une pièce qui a commencé à m'intéresser à la 4e heure, donc.
Moi, je m'étais endormi entre-temps, quasiment, mais bon.
J'espère que ça sera pensé à partir de cette fin.
Bon. Et Fabienne, l'autre Fabienne, Pascal.
L'autre Fabienne écrit, trouve que Pascal Rambert, il écrit trop, quoi. Il est talentueux, une fois c'est bien, une fois c'est raté. En plus, avec toujours la même grammaire dramaturgique composée, comme l'a dit Fabienne Darche, de monologues qui s'empilent sans aucune ellipse. Il vomit de la littérature dramatique. Et c'est vrai que là, le propos est un peu filandreux. S'il veut dire que ces intellectuels viennois d'entre les deux guerres n'ont su rien empêcher et que les artistes ne peuvent pas empêcher les conflits, ne peuvent pas empêcher l'horreur, l'apocalypse, la Shoah, et Dieu sait ce qui peut se passer dans les années à venir. Bon, c'est un peu mince. C'est un peu mince et surtout rabattu, quoi. Mais la troupe, moi, je ne partage pas ce que dit Fabienne. Certes, Stanislas Nordet, en homosexuel mal avoué et bouleversant de solitude, et il est magnifique, mais je trouve que toute la distribution est quand même assez exceptionnelle. Donc, Rambert, ça suffit, prends ta gomme et écris mieux, mais c'est vrai qu'il écrit sur mesure pour ses acteurs et qu'ils sont quand même, ils arrivent quand même pour moi à être exceptionnels.
Il manquait pas, et je pense qu'il ne manque toujours pas de grandiloquence, parce que à Avignon, dans son programme, il mettait, pour parler de sa pièce, c'est un memento mori pour penser notre temps. Ce qui déjà est une phrase à faire fuir tous les spectateurs.
Je vais faire mes petites interventions, mais je pense que ce qui est très agaçant avec Pascal Rambert, c'est la différence entre ce qui est noté dans le dossier de presse et ce qu'on voit sur scène.
C'est souvent le cas, Fabienne. Oui. Hein, le dossier de presse.
Oui, mais là, je trouve que là, quand même, du coup, voilà.
Jacques. Ce qui est vrai, c'est que si on examine le texte lui-même, la troupe, c'est vrai, elle comporte beaucoup d'acteurs excellents qui arrivent par moments à s'en tirer, par moments seulement, mais le texte lui-même est d'une grande faiblesse. Le texte n'a aucun intérêt littéraire, ni même tellement dramatique. C'est surtout c'est une copie des Damnés. On retrouve exactement le même système que les Damnés de Visconti qu'on avait vu il n'y a pas longtemps dans cette même cour d'honneur. On a l'impression que Rambert a été impressionné par ce spectacle et que sans le vouloir, il l'imite.
Cette architecture de Pascal Rambert, vous pourrez le voir en janvier à Annecy et à Clermont-Ferrand. Enfin, pas après ce qu'on vient de dire. En février, au Gémeaux de Sceaux, au Phénix de Valenciennes et au Célestin de Lyon. Autre long spectacle près de 4 heures, c'est Bajazet Racine, le nouveau spectacle de l'Allemand Frank Castorf, ex-patron de la Volksbühne de Berlin, qui vient d'être créé au Théâtre Vidi de Lausanne, où vous l'avez vu les uns les autres, je crois, et qui arrive à la MC93 de Bobigny jusqu'au 14 décembre dans le cadre du festival d'automne avant une tournée avec Jeanne Balibar dans son plus simple appareil, Jean-Damien Barbin, Adama Diop, Mounir Makhgoum, Claire Sermon et une caméra live. On sait en effet le goût de Castorf pour la vidéo. Ici, il ne se contente pas d'adapter donc la tragédie de Racine, qui se déroule dans le sérail du tyrannique sultan Amurat à Constantinople, où la lutte pour le trône se double d'une rivalité amoureuse. Il la confronte aussi au texte furieux d'Antonin Artaud, sous-titre d'ailleurs du spectacle, en considérant le théâtre et la peste d'après Racine et Artaud. Ben, vous allez me dire ce que ces deux-là font ensemble. Pour moi, ça n'est pas tout à fait évident, Jacques.
Ah ben c'est, non, c'est pas évident, à mon avis, du tout. Le pauvre Racine... Si je peux juste terminer ma phrase. La première phrase, juste. Donc. Bon, Pascal n'a rien à faire là-dedans, mais rien à faire quoi que ce soit. Et surtout, le pauvre Racine est massacré. D'ailleurs, la pièce n'est même pas terminée. Tout ça, vous vous rendez compte que le spectacle dure 4 heures et pourtant, la pièce ne se termine pas. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'histoire de Bajazet, vous ne saurez pas comment elle s'achève. Artaud n'a rien à voir avec le reste. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je voudrais résumer, je ne voudrais pas être insultant, mais... J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un enfant qui s'empare d'un pinceau plein de peinture et qui barbouille une toile magnifique, qui est le Bajazet de Racine, qui est quand même une assez belle pièce. Et là, il la rend évidemment incompréhensible, mais il la déchiquette, il la lacère, il n'en reste pratiquement rien. Alors, en revanche, ce qui est fascinant, c'est le sadisme. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot de la façon dont...
Madame Balibar se donne beaucoup quand même dans ce spectacle.
Elle s'y complaît, elle accepte ça, mais c'est franchement très difficile à supporter de voir une actrice filmée volontairement pour l'enlaidir, pour l'avilir, et on arrive au grotesque le plus complet. Il y a une scène où elle est... Je voudrais pas exagérer, mais je crois qu'elle est vraiment nue pendant 20 minutes, totalement nue.
Faut rappeler que c'est Madame Castorf.
Dans l'éclairage affreux, etc. C'est Madame
Castorf.
Elle
est juste sublime.
Sublime. Si vous voulez, on n'a pas la même notion du sublime. Et à ce moment-là, elle se met à confectionner une soupe. Elle est filmée en gros plan. Elle confectionne une soupe et massacre des pauvres carottes qui n'y sont pour rien.
Elle est toujours nue.
elle est toujours nue, et c'est bon, ça renouvelle un
en
peu.
En proie au désir.
Ça renouvelle les leçons.
Ah, toujours quand on fait une soupe. Toujours. Moi, je sais que quand je fais une soupe, c'est toujours à poil.
Enfin, écoutez, ça change de maïté. Hein.
C'est une autre façon de voir les
cours de gastronomie. Enfin bon, c'est un spectacle grotesque d'un... Pardon, mais d'un vieux provocateur qui n'a plus rien à dire et qui s'acharne à détruire un peu méchamment tout ce qu'il pourrait y avoir de beau dans cette pièce.
Fabienne Pascoe.
Alors, d'abord, chez Castorf, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des digressions, des ajouts de textes, des compositions de la pièce qu'il met en scène.
Mais
il a souvent.
C'est intéressant s'il
mais
se passe
ça
quelque
apporte
chose.
Des choses.
Ah bon,
Racine était un contemporain de Blaise Pascal, si vous l'ignorez.
Ah bon.
Et donc,
mais
tout ce qu'il peut dire, pas d'Artaud, c'est vrai, mais tout ce que Pascal peut dire.
Non plus.
Mais il y a juste un petit passage de Dostoïevski. Oui, mais tout ça est en même temps plein d'âme. Moi, ce que j'aime chez Castorf, parce que là, on donne une vision un peu chaotique, mais c'est justement ce chaos. Enfin, ça pète sur la scène. Il y a des déflagrations, des explosions. Il nous pose des questions, il nous provoque. Jamais, je dis bien jamais, en des années de théâtre, je n'ai vu la passion incarnée par une actrice comme Jeanne Balibar, qui est en proie au désir.
Et entre parenthèses, au même moment, est commissaire de police à Montfermeil dans le film
mais
de
La Gilly. Mais c'est une comédienne prodigieuse.
Non, c'était une information, c'était pas une...
Mais bien sûr, et elle est très bien d'ailleurs dans le La Gilly.
On dirait qu'elle fait
mais
concurrence à Fanny Ardant dans la diction un peu ridicule.
Mais pas du tout, elle porte quantité de rôles en elle, tous ses fantômes, tout ce qu'elle a joué, de l'Elvire de Don Juan à la Dame aux Camélias. Mais elle joue admirablement la pièce. Ce personnage de Roxane, alors vous n'avez pas bien écouté la pièce parce que...
Oui, sûrement.
Exactement comment ça se finit. Ce personnage de Roxane, ce qu'il y a d'intéressant chez Racine, c'est le mélange du sexe, du pouvoir, du désir, comment tout ça se trame, comment l'un influe sur l'autre, et dans un jeu de cruauté permanent. Oui, ben écoutez, vous la connaissez pas si bien que ça, puisque vous n'avez pas compris, par exemple, comment on pouvait introduire Antonin Artaud. Antonin Artaud, c'est le théâtre de la cruauté. Je ne vous apprendrai pas.
Il suffit d'interrompre la pièce et de dire des textes d'Antonin Artaud.
Laissez-moi parler aussi. Alors, donc, si vous n'avez pas saisi ça et les intrications secrètes entre Artaud, Racine, la cruauté, le divertissement pascalien, le dieu caché qui est toujours là, là c'est le personnage du sultan qui est présent constamment dans la pièce via un immense portrait, vous comprenez pas grand-chose.
Fabienne Darge.
Moi, je dirais que, à mon avis, c'est pas le meilleur des spectacles de Franck Castorf, mais c'est quand même à Castorf, et Castorf, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même un des maîtres européens du théâtre d'aujourd'hui, qui est sur un mode, évidemment, c'est sur le mode de l'outrance, du grotesque, du toujours plus, d'une sorte de tissage, de tressage, de choc, de matériaux différents, etc. Moi, encore une fois, c'est pas son spectacle que j'ai préféré. J'avais préféré de loin le Molière d'après Bulgakov qui avait été montré à Avignon, qui, de mon point de vue, était absolument génial. C'est-à-dire que Castorf a quand même profondément dans ses fibres, je trouve, une science du théâtre qui est vraiment énorme.
Par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Voilà, énorme. C'est quelqu'un qui est quand même pétri de théâtre. Bon, à partir de là, ça dure 4 heures. Je dois dire qu'il y a des hauts et des bas.
Bon, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas.
Ça, c'est pas un argument, Fabienne.
Le théâtre, c'est la vie. Pourquoi ça serait différent? Pourquoi ça serait différent?
Bon, après, voilà. Balibar fait quand même une performance qui est presque au-delà du réel, où moi, j'ai oscillé en permanence entre l'admiration éperdue et la gêne, je dois l'avouer. C'est vrai que par moments, c'est gênant. C'est gênant, mais ça fait partie... En tout cas, ça fait partie de la recherche. Et c'est là qu'Antonin Artaud intervient, à mon avis, d'après ce que j'ai compris. Je ne prétends pas... Je pense que c'est pas Racine plus Antonin Artaud. Je pense que c'est Racine vue à travers le filtre d'Antonin Artaud. Et ça donne cette tentative de faire un spectacle qui soit quand même un peu dérangeant dans nos temps d'aujourd'hui où plus rien n'est dérangeant.
Le pauvre
où tout le monde se met à poil tout le temps.
Les gens n'osent même pas protester.
Ils partent.
Les gens partent très gentiment à l'entraide. Qu'est-ce qui ne dérangeait personne?
Ils jettent des tomates.
Moi, je ne le dis pas.
Je voudrais avoir l'avis de Gilles.
Allez,
Gilles.
Oui, moi j'ai plutôt aimé ça et je dois dire que j'ai été un peu comme Nerson au départ, j'ai refusé ça, mais j'éprouve ça souvent avec Castor, c'est-à-dire je refuse les premières parties parce que effectivement il monte pas ce qu'il annonce et c'est vrai que c'est ni Bajazé ni Antonin Artaud, c'est une machine de guerre faite par lui-même où il prend des morceaux, et finalement on aime ça parce que c'est une tentative qui se met en cause tout le temps, c'est-à-dire qu'il adopte un style, puis un quart d'heure après il adopte un contraire qui se moque de ce qu'il vient de faire. Alors ça peut être très irritant, en même temps c'est très excitant pour l'esprit parce que finalement on n'a pas un théâtre, on en a 40 quoi, c'est 50, c'est assez formidable cette machine. Alors c'est une machine de l'épuisement, c'est-à-dire où il épuise les formes qu'il utilise, où il épuise les spectateurs, où il épuise les acteurs, tout le monde est un peu à bout de force, à bout de nerfs, mais justement il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et là Balibert elle va vraiment au bout d'elle-même, Jean-Damien Barbin aussi, les autres aussi, et ça devient un objet qui n'est ni Bajazé, ni la pièce de, ni le texte d'Antonin Artaud, mais un objet de Castor tout à fait.
C'est du Castor.
Extraordinaire.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une tentative, juste pour terminer, de mener une expérience, ce qui est finalement comme
ça. On l'a compris, ça, hein, Fabienne. Bah, c'est une expérience particulière.
Ça fait combien de temps que ces expériences durent? Il serait temps que ça aboutisse à quelque chose.
C'est bien, déjà qu'il n'y a pas tant de gens qui arrivent. Il n'y a pas tant de gens que ça qui
arrivent. Ils ont 30 ans, ils arrivent, ils se renouvellent.
Mais calmez-vous.
Vous prosternez comme
tout. Calmez-vous.
Je me prosterne.
Et en plus, il a fait rentrer deux jeunes acteurs formidables dans sa bande.
Alors, voilà, on se calme. C'est
non, on se calme.
Bajazé, en tout cas, il a réussi son coup, Castorf. Hein.
Ah bah.
C'est ce qu'il voulait, j'imagine. Bajazé, enfin, ce qu'il en reste de Bajazé.
On pourra en parler pendant 3 heures.
Oui, mais ça ne sera pas le cas. Et c'est donc, je le précise, à la MC93 de Bobigny, ça sera en février. Préparez-vous à Annecy. Et aussi à Valence, une des dernières soirées de carnaval du Vénitien Carlo Goldoni, une pièce qui vient de se donner au Bouffes du Nord et qui part en tournée, elle aussi, jusqu'au 25 février dans une mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Ça pourrait être d'ailleurs pour moi un spectacle de la Comédie Française. Avec une troupe trop nombreuse pour que je puisse citer tout le monde, et je le regrette, comédie peu connue que Goldoni a écrite pour dire adieu à son public. Avant de quitter Venise, où il y avait moins d'Aqua Alta qu'aujourd'hui, pour Paris, pour la France de Molière, où, pensait-il, on comprendrait mieux son envie d'en finir avec la Commedia dell'arte, on est chez Zamaria, un tisserand de Venise, le dernier jour donc du carnaval, qui marque aussi la fin de la saison théâtrale. Zamaria a convié des amis, dont un dessinateur en tissu qui s'apprête à partir pour Moscou. Donc on joue aux cartes, on dîne, on rit, on danse, on parle d'amour et on pose évidemment la question de l'exil. Est-ce que vous avez été heureux à ce banquet, Fabienne Pascaud?
Oui, c'est un spectacle charmant, délicieux,
plein de mélancolie. Oh là, j'aime pas comment vous dites ça.
Non, si, j'aime bien. Non, mais c'est pas la fureur de Castor. Enfin, moi, j'aime les choses un peu violentes et rageuses. Mais c'est un très, très joli spectacle.
Quand même.
Bien sûr. D'une musicalité, d'une harmonie. Les comédiens, on ne peut pas tous les citer, mais ils incarnent à merveille cette comédie douce amère qui évoque Tchekhov, une œuvre chorale. Goldoni fut sans doute parmi les premiers à imposer des spectacles où personne n'a le premier rôle, mais où tout le monde se répond et se fait écho. Là, ça raconte superbement on sait que la pièce a été écrite en 1762, comme vous l'avez dit, au moment où Goldoni va quitter Venise pour aller sur la demande de Louis XV et des comédiens italiens de Paris. Mais on sent qu'il se projette dans le personnage du dessinateur de tissus,
oui,
et qu'il est triste de partir. Mais il le dit avec une telle finesse qu'on ne peut pas même s'empêcher de penser aux réfugiés d'aujourd'hui. Donc ce spectacle est non seulement gracieux, pictural. Ah oui, moi, en écoutant ce que le jeune homme dit sur l'exil et sur sa peur de quitter son pays, je me suis dit...
Enfin, avec plus de moyens et plus de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des migrants, hein, ceux-là.
C'est pas des migrants, mais les migrants, ils ont les mêmes peines, dont certes, je vais un peu loin, mais c'est pour dire toute la force de la mise en scène. Oui, mais vous voyez jamais rien, Jacques.
Oui, bien sûr.
C'est pour dire toute la force du spectacle de Clément Hervieux-Léger qui arrive à donner des horizons insoupçonnés à cette simple soirée de carnaval.
Gilles.
Oui, c'est d'ailleurs une idée formidable d'avoir repris ce texte. C'est une traduction de Myriam Tannant, qui était une grande traductrice.
Moi, je ne l'avais jamais vue, moi.
C'est Jean-Claude Pinchetin qui a co-traduit, l'avait monté il y a une vingtaine d'années, de façon très belle. Et Myriam Tannant est une grande traductrice qui est morte depuis. Donc, c'est assez émouvant de voir qu'on reprend ce texte et que ce texte est magnifique. Et puis, le Hervé Léger, dont on a déjà vu beaucoup de très, très belles mises en scène, notamment le misanthrope de la Comédie française, qui est sûrement le plus beau misanthrope qu'on a vu ces 10 dernières années, fait un travail d'une subtilité extrême. Enfin, tout est absolument délicat, intelligent. Il y a aussi cette méchanceté, parce que c'est quand même très méchant aussi.
Ah, pas du tout. Alors,
si, si, c'est méchant, parce que les...
totale de la pièce et de Goldoni.
Mais si, parce que c'est quand même des bourgeois, des bourgeois qui ne sont pas tous gentils. Et je trouve, voilà, je trouve qu'en tout cas, la grâce du spectacle, elle est dans cette mise en scène, dans cette multiplicité des personnages. Et rien que la façon dont Daniel San Pedro met le couvert à table, déjà, c'est déjà un art théâtral.
Il faut dire qu'il met le couvert habillé, lui.
Bien sûr.
Hélas,
Fabienne Darge.
Alors, oui, c'est sûr, c'est pas comme la soupe chez Castoff, mais. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, c'est un spectacle extrêmement plaisant, raffiné, délicat. Moi, je dois avouer que je me suis quand même un tout petit peu ennuyée par moment. Un tout petit peu. Je trouve la mise en scène quand même, effectivement, très fine, très voilà, douce, amère, ça a été dit. Je pense que c'est quand même la pièce, moi je ne l'avais jamais vue, effectivement, et pour moi, ce n'est pas la meilleure pièce de Goldoni. Je me suis demandé quand même si la traduction, justement, n'avait pas un petit peu vieilli. Voilà, bon, c'est des petites nuances, hein, mais c'est quand même, c'est une belle soirée. Et en plus, il y a une manière de très fine d'aborder les relations entre les hommes et les femmes, qui sont toujours un des grands sujets chez Goldoni. Et là, remis au goût du jour, mais dans une mise en scène en même temps historique, et qui en même temps est quand même baignée par un décor et des costumes absolument merveilleux.
Aussi,
une musique, voilà.
Jacques.
Moi, j'ai passé une soirée délicieuse, vraiment, d'abord à cause de la pièce, parce que je trouve la pièce très jolie, je trouve merveilleux que Goldoni prenne congé de Venise, qui le maltraitait à ce moment-là, qui lui préférait ses rivaux, et il en prend congé sans la moindre rancœur. Il n'y a pas un mot d'amertume dans cette pièce. Il y a un peu de nostalgie déjà.
Alors qu'il pense qu'il n'est pas compris par les Vénitiens.
Et il n'était pas compris, il avait raison, mais... Il n'y a pas de colère là-dedans. Et cette absence de méchanceté, pardon, Gilles...
Je suis désolé, mais le personnage de la Française, par exemple, il est très méchant.
Non, pas du tout. Elle finit par être achetée pour
tous. Et puis, ces personnages ne s'aiment pas en
tous.
Enfin.
Ça se termine à l'avantage de chacun. Oui. Goldoni est quelqu'un...
Femme hystérique qui est très méchante.
Mais non, elle n'est pas méchante, elle est hystérique, c'est autre chose. Et ce qu'il y a de merveilleux chez Goldoni, c'est que c'est justement quelqu'un qui, comme les très grands auteurs, n'abandonne aucun personnage. C'est-à-dire que tous ont leur chance. Et s'ils ont à certains moments des aspects antipathiques, à d'autres moments ils sont complètement attrapés. Et ce que j'aime dans la mise en scène de Clément Hervieux-Léger, c'est que justement elle rejoint cette tendresse. Il accompagne tous les acteurs, tous les personnages. Il n'y en a aucun qui est négligé, ils sont nombreux sur ce plateau. Ils sont tous, que ce soit les valets, les maîtres, ils sont tous merveilleusement dirigés.
C'est pour ça que j'aurais voulu tous les citer, malheureusement on n'a pas le temps.
Non, c'est une très très jolie soirée.
C'est des acteurs qu'on ne connaît pas en plus.
En plus on ne les connaît pas, il n'y a pas de vedettes.
Et je voudrais juste citer la costumière Caroline de Vivez qui a fait un travail
tout repos sur les costumes.
C'est
tout repos sur les costumes.
Le travail costume, et
pas que quand même.
Non, mais je parle. C'est pas les décors, c'est pas...
Non, l'esthétique du spectacle, c'est vrai, repose sur les causes, ils sont
une
super.
Une des dernières soirées de carnaval de Goldoni, vous pourrez le voir, vous, nos auditeurs lyonnais, au Célestin en décembre, également à Albi en janvier, à Bayonne, et puis à La Rochelle, et puis à Caen. Et moi, je trouve bien ce théâtre qui, vous voyez, pièce après pièce, tourne à travers la France. Voilà, allez, même si les figures historiques ont disparu, les Chiens de Navarre, le collectif d'acteurs fondé en 2005 par Jean-Christophe Meurice, sont de retour avec Tout le monde ne peut pas être orphelin, qui se joue jusqu'au 7 décembre à la Villette, avant de partir en tournée pour revenir aux Bouffes du Nord, mais ce sera qu'en juin prochain, avec les deux ex des Chiens, Lorella Carvota et notre cher Olivier Saladin, cette fois sans broche, mais aussi Charlotte Lemel, Judith Siboni, Vincent Lécuyer, Hector Manuel et Alexandre Steiger. Le thème, eh bien, c'est la famille, enfin une certaine idée de la famille. 91% des Français
affirment que la présence quotidienne de leur entourage familial leur apparaît comme essentielle. Je me sens bien souvent un égaré des 9% restants, dit Meurice, pour présenter ce spectacle, essentiellement fait de couches culottes et de pipi caca, de vannes, de crises de nerfs, de lancers de poulet, de sapins de Noël, sur des, notamment des airs des Bee Gees. Jacques, vous avez aimé ça?
Écoutez, c'est très représentatif d'un théâtre sans auteur. Et évidemment, on arrive à une succession de petits numéros, parfois drôles.
C'est comme une succession de petits sketchs.
Voilà, c'est des petits sketchs. Malheureusement, que des petits sketchs qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres en réalité. Effectivement, un esprit très pipi-caca.
Insistant.
Franchement, un peu dérangé, franchement. Je ne crois pas être bégueule, mais là, franchement, au bout d'un moment, on en a un peu marre de voir une femme être absorbée par la cuvette des toilettes avec les crottes qui ressortent, etc. C'est répugnant.
Non, mais ça, vous n'étiez pas obligé de le raconter, parce que ça...
Il faut quand même que les spectateurs aient une idée de ce qui les attend.
Oui.
Voilà, c'est très vide. C'est...
Ah oui.
Il faut
vide
avoir...
ou plein, ça dépend.
Non, mais il serait temps quand même qu'on se rende compte que l'auteur, c'est quelqu'un d'important au théâtre et que, sans passer complètement, ben non, les comédiens...
Mais la question, c'est est-ce que cet humour-là des Chiens de Navarre, qui n'est pas, en revanche, neuf, est-ce qu'il passe encore aujourd'hui?
Est-ce qu'il
n'a pas pris un peu de... Voilà,
ben écoutez, pas auprès de moi, mais la salle était... ravi, les gens trépignaient de joie à la fin. Donc, je ne peux pas dire que ça ne marche pas, ça marche, mais ça marche sans moi.
Et Fabienne Darge ?
Eh bien, ça marche sans moi aussi, je dois dire. Mais je dois dire, effectivement, par honnêteté, on y était le même soir que la salle globalement était morte de rire. Déjà, les Chiens de Navarre, pour moi, c'est un petit peu depuis le début, mais je trouve que là, et en plus, ça s'est aggravé. Mais je trouve que c'est l'anti-Castorf, justement, c'est-à-dire que c'est de la provoque à deux balles.
C'est-à-dire que... c'est pas si loin, Castorf.
Ah non, justement, je trouve que ça a l'air d'être pas si loin, et en fait, c'est l'anti-Castorf. C'est-à-dire que c'est de la fausse provocation qui ne dérange rien. C'est-à-dire que c'est vraiment de la surface, et effectivement, il n'y a pas d'auteur. Donc, on va faire comme si on faisait du théâtre très, très dérangeant pour aujourd'hui, parce qu'on montre un acteur de 30 ans, tout nu, qui fait le bébé en couche-culotte, avec le caca dans la couche-culotte, effectivement. Voilà, hein, non, mais c'est vraiment ça, on le voit.
Et autour, on goûte le contenu de la couche.
Ça va. Non, mais c'est vrai, attendez.
On est diffusé à l'heure du dîner,
ça va. On donne un compte-rendu
du spectacle. Et surtout, je trouve ça très daté. Autant on peut trouver Castorf daté.
Vous avez oublié le début.
Non, attends, Fabienne, laisse-moi terminer, excuse-moi, mais je trouve ça très daté à la fois sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que sur la forme, ça a correspondu il y a 10 ans à toute une émergence effectivement du théâtre, l'écriture de plateau, les improvisations, etc. On voit qu'il y a un épuisement de ça. On voit effectivement le manque d'auteur. Et sur le fond, alors moi, c'est là que là-dessus, ça me concerne le plus. C'est que j'ai l'impression que c'est des états d'âme de petits bourgeois de la France profonde qui pleurent parce que leurs parents 68ards ne sont pas occupés d'eux et en même temps qu'ils veulent récupérer la maison de campagne. Enfin, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment dire, mais sur le fond, mais ça ne m'intéresse pas. Mais un point, mais alors, mais c'est abyssal. Voilà.
Fabienne Pascoe.
Ben moi, ça m'intéresse parce qu'on est tous des petits bourgeois en puissance.
Mais
et je trouve que le début,
vous ne
racontez pas. Oui, mais ça alors, ces petits bourgeois aussi, Jérôme. C'est pas des diamants, hein. C'est du pauvre petit or. Et... ah, même pas 18 carats. Non, mais vous racontez pas le début de la pièce, qui est quand même le début de la pièce, qui est quand même les parents. Mais non, les parents qui osent dire à leurs enfants qu'ils ont vendu leur grande maison. Et donc, pour aller vivre, eux, dans le Sud, dilapider ce que les enfants imaginaient sans doute être leur héritage. Mais non, c'est quand même très courageux de la part de ses parents. Ça raconte des tas de choses sur les relations entre les parents et les enfants. Les enfants qui sont dans la dépendance des parents et qui n'acceptent pas, finalement, que leurs parents ne leur laissent rien. Ça pose aussi ces problèmes d'héritage-là, dont Piketty nous rabat les oreilles à longueur d'essai.
Ah bah moi, je préfère
donc
lire Piketty,
aussi...
hein, je trouve ça plus intéressant. Mais bon.
Je préfère, moi, aller voir Les Chiens de Navarre, c'est plus facile. C'est plus facile à lire. Donc, moi, ce que j'aime dans Les Chiens de Navarre, c'est que, mine de rien, avec des gags, des provocations outrancières, scatologiques, comme vous dites, mais c'est au-delà de ça, ils arrivent à nous raconter la France d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui,
la France d'aujourd'hui,
dans
c'est
tout
pas
la
ça,
France
France petite bourgeoise d'aujourd'hui. Mais si, c'est ça aussi. Je vous ai parlé du début, je vais vous parler de la fin du spectacle. Qui raconte un moment très émouvant. Fabienne le dit, heureusement, pour une fois, là, on est d'accord. La fin, c'est le père, peut-être malade d'Alzheimer, devenu veuf, devenu hébété, triste, seul, terriblement seul, que sa fille, après tout ce qui s'est passé, que sa fille vient laver dans la baignoire, tristement, doucement, tendrement, tandis que la neige tombe. Et bien ça, c'est une image bouleversante aussi sur ce que peuvent être les familles.
Gilles.
Oui, moi je crois que les Shannon ont une certaine ambition. En fait, ils travaillent sur deux niveaux. Il y a un niveau de l'affronter les tabous, tabou de la famille, tabou de la bienséance, tabou du sexe, tabou de la mort. Et il y a des moments où il les affronte, où il les touche, et ça devient très stupéfiant. Tabou de la vieillesse, justement, la scène de la baignoire est effectivement très forte. Mais on a l'impression que chaque fois qu'ils ont atteint un endroit difficile, ils en ont peur et ils passent aussitôt au comique le plus gras, le plus déplaisant, le plus facile, le plus vulgaire, le plus grossier. Ce qui fait que sur un
spectacle
qui dure quoi, 1h15, 1h30, il y a finalement un quart d'heure à sauver, ce qui est quand même trop peu.
C'est donc que tout le monde ne peut pas être orphelin des Chiens de Navarre. Et ça va être ce mois-ci, en décembre, à Alfortville, Cergy Pontoise, en janvier à Bobigny, à Toulouse, en février à Maubeuge, au Havre, et en mai à Châlons-en-Champagne. Allez, on va aller un peu plus vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Sous le titre Adieu Ferdinand, suite et fin, Philippe Cobert prend donc ses quartiers d'hiver au Théâtre du Rond-Point. Ce sera jusqu'au 5 janvier avec 3 spectacles, La Baleine et le Camp Naturiste, Le Casino de Namur 1 et Le Casino 2, où il expose ses frasques sexuelles, découvre avec Ariane cet autre théâtre du soleil qu'est le Camp Naturiste de Montalivet. On a déjà parlé au Masque et la Plume, joue au Casino de Namur, à la roulette et au Blackjack. D'ailleurs, je signale que paraît chez Joël Losfeld le roman d'un acteur, tome 2, La Belgique, de ce même Cobert. Ce nouveau spectacle, dit-il, le champion, vous le savez, de l'autofiction sur scène, ne prétend pas être un nouvel épisode d'un roman bouclé depuis longtemps. Il n'espère qu'être un moment de divertissement, un feu d'artifice, un bouquet final en guise de testament provisoire et jubilatoire. Gilles.
Je suis allé revoir le Casino de Namur 2, donc la dernière partie. Et je recommanderais plutôt les épisodes précédents parce que celui-là est quand même une espèce de dernier tour de piste un peu inutile. C'est-à-dire que c'est juste des...
Ça sent un peu effectivement le dernier tour de piste.
Les trois copains qui vont jouer leur argent au casino de Namur et qui le perdent. S'ils le racontaient en 10 minutes, on pourrait peut-être rire, mais en 1h45, c'était tiré au maximum, quoi. On a l'impression de vous parler d'un champion du...
Parce qu'au début, c'était ce qui nous frappait le plus.
Oui, mais ça me rappelle, moi, qui aime beaucoup le vélo, des champions qu'on voit dans les démonstrations, ils ont 40, 50 ans, ils pédalent, mais ils n'avancent plus. Et c'est malheureusement ce que fait Philippe Cobert dans le dernier spectacle.
Oui, Fabienne Darge.
J'avoue que moi, j'ai trouvé que c'était une triste fin. Enfin, je n'ai vu que le tout dernier également, comme Gilles, donc le Casino de Namur 2. Et j'ai trouvé que c'était une triste fin pour ce roman d'un acteur que moi j'ai adoré.
Tous adoré.
Je crois. C'était quand même éblouissant. Il faut quand même rappeler, comme je ne vais pas être très gentille, il faut quand même rappeler que ça a été éblouissant. Ça a
absolument.
Été des très grandes aventures du théâtre contemporain quand même. Et là, oui, c'est une triste fin. Moi, j'ai trouvé, d'ailleurs, je me suis beaucoup interrogée sur cette espèce de métaphore involontaire qu'il était allé trouver avec la roulette du casino. C'est-à-dire un truc qui tourne à vide comme ça et on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi ça s'arrête ou pourquoi ça ne s'arrête pas, pourquoi on gagne ou pourquoi on ne gagne pas. Alors moi, je l'ai vu à Avignon, à la création, donc avant même le rond-point. Donc je pense qu'en plus, il n'était peut-être pas tout à fait prêt, parce que Cobert, qui est quand même un acteur, pour le coup, ça, on ne peut pas lui dénier ça, éblouissant, mais là, même en tant qu'acteur, il n'était pas bon. C'était une espèce de marionnette de lui-même, on voyait toutes les coutures, enfin... Non, je suis sortie très triste.
On a l'impression qu'il a perdu les raisons de se raconter.
Voilà.
Et il en avait des raisons autrefois.
Mais je pense que c'était aussi un peu les fonds de tiroir qu'il est allé racler pour ce dernier épisode quand même. Mais bon.
Oui, peut-être qu'il n'avait pas envie de bien finir. Je suis d'accord avec vous, c'est trop long. Ça tourne à vide. C'est un petit peu toujours la même chose qui se passe. Il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. Et puis il repère et il regagne. Mais bon, j'ai quand même été éblouie. La performance de l'acteur est si magnifique. Moi d'abord, quand je vois... une chaise nue sur un plateau vide et qui va être tout à coup vibré de 1000 sensations, de 1000 émotions, de 1000 paroles par un seul homme qui parvient rien qu'avec son pauvre petit corps à sculpter l'espace autour de lui. Je
petit
dois
corps,
dire que
petit corps.
J'ai oh boy, il est tout mince, il est agile, il est athlétique, il est beau, Philippe Cobert, il est très beau. Et donc, j'avais presque envie de fermer les yeux et de voir cet homme qui, effectivement, tourne à vide, mais peut-être parce que c'est la fin d'un cycle qu'il n'a pas envie de finir. Je trouve l'exercice quand même très, très émouvant.
Mais t'as aimé les blagues salaces complètement, mais vraiment quand même...
Mais il y en a toujours des blagues salaces.
Oui, mais là, quand même, hein.
c'est aussi
peine,
son fonds
quoi.
De commerce.
Oh, non, je suis d'accord avec
côté
Fabienne,
salace,
il y en a toujours eu.
Le côté salace me fait jamais de peine. Voilà,
il y en a toujours eu avec le personnage de Bruno.
Alors je cite quand même.
C'est fou ce qu'on découvre au masque, Fabienne.
Le personnage de son copain Bruno Gagliardini, il porte bien son nom.
En quelques mots, Jacques.
C'est évidemment la fin de presque de 40 ans d'aventure. C'est un peu comme les derniers albums d'Hergé, on dit au revoir à Tintin. C'est pas les meilleurs albums, mais en même temps, ne pas les voir, ne pas en profiter, ça me paraît invraisemblable. Alors, c'est pas effectivement le spectacle qui m'a le plus touché. Je parle de ce dernier épisode.
Le Casino 2.
Et si on n'a jamais vu Cobert, je recommanderais plutôt La Baleine et le Camp Naturiste, que je trouve plus réussi. Mais c'est quand même magnifique.
Même si on n'a jamais vu Cobert, on peut voir ça.
Et bien sûr.
Il faut que ça se joue. C'est assez compliqué. Hein,
ça joue en alternance.
En alternance, mais de trois spectacles, donc c'est compliqué.
Mais moi, par exemple, je n'emmènerais pas quelqu'un de jeune voir ça.
Mais quand à la fin, les essuie-glaces de la voiture deviennent un bras qui fait au revoir, très honnêtement, moi, j'avais le cœur serré. C'est une partie de ma vie qui s'en va, là, hein, vraiment.
Adieu Ferdinand, bon. Suite et fin. Philippe Cobert, c'est au Théâtre du Rond-Point.
Vous êtes émouvant, vous voulez.
Un mot de Madame Zola, d'Annick Le Goff, mise en scène par Anouche Chetbon. Avec Catherine Arditi et Pierre Forest au petit Montparnasse, on est en 1908, c'est la rencontre tout à fait improbable entre Alexandrine, la veuve d'Émile Zola, et un apothicaire herboriste réputé pour ses potions magiques. L'occasion surtout de nous donner un cours de rattrapage sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. Donc il y a tout, hein, J'accuse, l'affaire Dreyfus, ses rapports compliqués avec Cézanne, son admiration pour Manet, et aussi bien sûr Jeanne Rosereau, la lingère, devenue la maîtresse de Zola, qui lui donna deux enfants, Denise et Jacques. D'ailleurs, profitez-en, même si vous n'y allez pas, pour lire ou relire les lettres de Zola à Jeanne Rosereau, qui ont paru il y a quelques années chez Gallimard. C'est un volume absolument formidable et très émouvant. Quelques mots de Madame Zola, Fabienne Pascaud.
Moi, j'ai appris plein de choses et je dois dire que j'ai été emportée par cette Madame Zola qui avait quand même un courage énorme.
Une abnégation, disons.
Alors que son mari la trompe à la mort du mari, elle fait tout pour reconnaître ses enfants, les enfants illégitimes d'une autre, de sa rivale, pour qu'il s'appelle Zola. C'est une femme exceptionnelle qui est interprétée par Catherine Arditi avec tout le peps qu'on lui sait, cette vitalité, cette amertume
elle
est toujours formidable, Catherine Arditi. Et là, en plus, grâce à l'interprétation de Pierre Forest, qui est son apothicaire, à qui elle se confie, on a même l'impression d'assister au début de la psychanalyse. C'est un clin d'œil que nous fait la metteuse en scène Anouche Chetbon. Et c'est assez drôle et pétillant. C'est vraiment une soirée, comme vous le disiez, où on apprend plein de choses et où le jeu des comédiens nous donne un petit air de théâtre en plus.
Jacques.
Vous avez raison, c'est un cours d'histoire, mais c'est un cours d'histoire qui nous est très bien administré. Je trouve que Annick Le Goff, l'auteur, a réussi quand même à rendre ça vivant et pas trop didactique. Et puis, effectivement, il y a le charme de Catherine Arditi qui agit toujours. C'est vrai qu'elle est pétillante, qu'elle est charmante, qu'elle est adorable. Et là aussi, ça aide à passer une soirée très agréable, vraiment.
Fabienne Darge.
Je n'ai pas vu les auditeurs.
Et Gilles Costaz.
Oui, c'est du travail d'époque, c'est-à-dire du travail au crochet, à la dentelle.
Oui, absolument. Hein.
Tout est écrit comme ça, avec des tout petits détails très précis, très passionnants et très bien joués.
C'est donc Madame Zola, c'est signé Annick Le Goff et c'est au petit Montparnasse. Et on termine avec Nous pour un moment, du Norvégien Arne Lig, remise en scène à l'Odéon, atelier Berthier, par Stéphane Braunschweig avec Anne Cantino, Virginie Colémine, Cécile Coustillac, Glenn Maros, Pierrick Platier, Chloé Réjean et Jean-Philippe Vidal, Arne Ligre, que Braunschweig monte pour la quatrième fois, qui explore avec une vingtaine de personnages, je ne vais pas résumer, les relations ambiguës qui nous lient pour un moment aux autres, qu'ils soient amis, ennemis, simples connaissances ou parfaits inconnus. Fabienne Darcha, vous l'avez vu?
Oui. Moi, j'ai trouvé ça très étonnant. Je trouve que c'est un des meilleurs spectacles de Braunschweig de ces dernières années. Alors, évidemment, c'est déroutant. Parce que Arne Ligre, que moi, je trouve un des auteurs de théâtre les plus intéressants d'aujourd'hui, c'est déroutant. C'est pas.
En tout cas, c'est irrésumable.
Oui, parce que c'est un auteur plus si jeune, hein, en même temps qu'il y a une cinquantaine d'années, qui travaille énormément sur les structures, mais pas seulement sur les structures du point de vue formel. Il y a un côté un petit peu... Je pense que Braunschweig doit aimer beaucoup les fugues de Bach. Et quelque part, il y a un côté comme ça, mais en version contemporaine, c'est-à-dire que c'est des variations. Donc il y a ce côté formel qui pourrait être... moi, quand un spectacle est purement formel, en général, il ne me plaît pas. Et là, ça a formidablement bien fonctionné, parce qu'il y a par derrière ce côté formel quelque chose de vraiment profondément humain, qui est porté notamment par les acteurs. Il y a une bande d'acteurs et surtout d'actrices que j'ai trouvé, mais alors extraordinaire, les actrices notamment, qui arrivent à rendre cette abstraction très concrète et du coup à dégager le fait que les relations humaines se jouent justement très souvent sur le mode de structure qui nous échappe à nous-mêmes. Bon, ça c'est un peu psychanalytique, on connaît le goût de Braunschweig pour la psychanalyse, etc. Mais ça reste très concret, ça reste du théâtre.
Voilà. Jacques ?
Je trouve que le texte n'a aucun intérêt. C'est une mosaïque, c'est vraiment très peu architecturé pour le coup. L'auteur n'a rien à dire, Braunschweig non plus. Il n'a qu'une idée. Une seule, c'est le décor. Alors, on sait qu'il est scénographe, il assure la plupart de ses scénographies.
Le décor est sublime.
Et là, alors, n'exagérons pas, on a déjà vu les acteurs jouer les pieds dans l'eau. Le décor consiste en une espèce de pédiluve. Et les acteurs, effectivement, jouent toute la pièce avec les godasses dans l'eau. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Quand je vois ça, il y a bien longtemps, chez Chéreau, quand c'est dans Massacre à Paris, évidemment, c'est magnifique et ça a une signification. Là, ça n'en a aucune. Vous allez nous expliquer, vous avez compris. Je pense que vous avez bien lu le dossier de presse et vous allez nous expliquer.
Oh,
vous allez
Jacques, le redire.
Gilles.
Jacques. Oh, non, Jacques, c'est un peu facile.
Mais je ne recule aucune facilité.
Non, là.
Pour faire un effet, un bon mot ou une méchanceté.
Gilles Costa, s'il vous plaît.
Ouais, non, moi, j'aime beaucoup le théâtre d'Arne Ligre. C'est vrai que c'est un théâtre qui n'est pas évident, qu'on a du mal à définir, mais là, en l'occurrence, nous, pour un moment, ça veut dire que les gens existent qu'à un moment. C'est-à-dire qu'ils sont là pendant 10 minutes, ils sont une personne, 10 minutes après, ils sont une autre personne, et ça crée à la fois une obscurité, mais à la fois une variation d'émotions très grande. Et tout ce qui est dit ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les littératures nordiques, c'est un peu Bergman, ça c'est très très noir, très bouleversant, bien que ça finisse.
N'insultez façon, pas Bergman.
De façon assez optimiste. Et non, j'insulte ni Bergman ni Nerson ce soir. Et puis les acteurs, comme l'a dit Fabienne Darche, mais sont magnifiques. Enfin, ils arrivent à être dans la seconde bouleversant juste. Enfin, il faudrait tous les nommer tellement ils sont extraordinaires. Et puis cette idée de sur l'eau, ce tapis d'eau comme ça, crée ce décalage dont on a besoin.
Allez à la piscine.
Fabienne.
Ben, c'est toute cette littérature dramatique scandinave qui est très passionnante aujourd'hui. Il y a Jon Foss, il y a Arne Ligre. Le côté liquide, ça fait évidemment penser, sans lire le dossier de presse, cher Jacques, à l'ouvrage de Sigmund Baumann sur la société liquide. On vit dans des sociétés où plus rien n'est fixe, où tout bouge, où on est connecté. Et donc, ça évoque ça, peut-être un peu trop littéralement. Mais même ces personnages qui n'ont pas de nom, qui sont l'ami, l'inconnu, l'ennemi... la personne, ça renvoie à la grande solitude d'aujourd'hui où on ne sait plus bien qui on est, où tout se noie dans un désert d'eau. Et je trouve ça assez émouvant et très finement fait.
Nous, pour un moment, Arne Ligre, c'est l'Odéon Atelier Berthier par Stéphane Braunschweig. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On commence avec Fabienne Pascaud.
Alors, j'ai vu une très jolie Mademoiselle Julie au théâtre de la Tempête, montée par Elisabeth Chailloux. On croyait, j'ai redécouvert la pièce encore une fois grâce à l'adaptation d'Elisabeth Chailloux. Ça se joue jusqu'au 8 décembre et c'est magnifiquement interprété, toute la violence du texte, les rapports hommes-femmes et tout ça. C'est formidable. Et puis, un texte contemporain que vous pourrez voir en France en tournée, le texte de Philippe Mignana, 21 Rue des Sources, qui raconte la vie, la mort, tout ça dans un dialogue entre deux êtres devenus fantômes qui revisitent leur maison familiale. C'est tout à fait réjouissant.
Et puisque je vous tiens, moi je conseille Issue de secours, le beau livre publié chez Actes Sud que vous signez avec Jean-Michel Ribes, Fabienne Pascot. Main dans la main, et vous racontez la belle histoire du patron tout feu tout flamme du rond-point. Un livre illustré où passe tout ce qu'on a aimé. Merci Bernard Palace, Théâtre sans animaux, Muséo, Musée Bas, René Lénervé, Bref de comptoir. La seule façon de s'en sortir, répète Ribes, est de trouver une issue de secours ou de l'inventer. Et c'est, il faut dire, très illustré. Il a mis toutes ses
C'est toutes Jean-Michel Ribes qui a tout donné.
Voilà. Jacques.
Moi, je conseille un très joli spectacle qui s'appelle Le Double, une adaptation de Dostoïevski, adapté, mise en scène et joué, entre autres, par Renan Rivière, qui est un acteur que je connaissais pas et que je trouve merveilleux.
Le conseil de Fabienne Darge.
Eh bien oui, un auteur contemporain, justement, jeune, très jeune, moins de 30 ans, qui écrit vraiment et qui écrit vraiment très bien.
Ça se trouve ?
Oui, ça se trouve. Il s'appelle Baptiste Amann. Donc il arrive au Théâtre de la Bastille, c'est jusqu'au 13 décembre au Théâtre de la Bastille, avec le troisième volet donc, d'une trilogie dont les deux premiers épisodes ont déjà été joués. C'est quelqu'un qui vient des quartiers, comme on dit de nos jours, ce mot qui est vraiment, enfin bon bref, qui écrit à partir de ça, mais qui écrit vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du théâtre dossier de l'écran, comme on en voit beaucoup depuis quelques temps. C'est une véritable écriture avec des personnages extrêmement forts, extrêmement incarnés, extrêmement bien joués. Et dans ce troisième épisode, en plus, c'est traversé par l'histoire de la guerre d'Algérie. Et moi, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu sur cette question ces dernières années, et traversé notamment par la figure d'une femme extraordinaire qui est Jamila Bouhired, qui est donc une des... une des héroïnes du FLN, enfin du point de vue en tout cas du FLN, et par celle de Jacques Vergès, qui est jouée par une jeune actrice extraordinaire. Jouer Jacques Vergès quand même, faut le faire.
Le conseil pour finir
à
de
la Bastille
Gilles.
Jusqu'au 13 décembre.
Oui, mon conseil, c'est un spectacle au Studio Héberto, une pièce qu'on connaît, qui est Les règles du savoir-vivre de Jean-Luc Lagarce. Vous savez que Jean-Luc Lagarce s'est amusé, mais est allé plus loin que l'amusement, à partir d'un traité de bonne conduite, c'est-à-dire comment on se marie, comment on parle dans les mariages, dans les enterrements, dans les fiançailles. Il a écrit ses règles du savoir-vivre dans la société moderne, et le spectacle que met en scène Roger Binsky avec Sophie Paul Mortimer est tout à fait étonnant, parce qu'il donne à la baronne, qui parle pendant une heure et demie facilement, une épaisseur, une profondeur, tout en ayant une drôlerie immense. Et on redécouvre cette pièce de Jean-Luc Lagarce qui est vraiment une très très... seulement un pamphlet, quoi, quelque chose qui va beaucoup plus loin dans l'analyse de la société.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Et moi, comme chaque année, je vous propose une nouvelle piqûre de rappel de voter pour le prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Il vous suffit de nous envoyer une carte postale au Masque et la Plume, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75016, ou un courriel sur le site à la rubrique courrier tout simplement de l'émission pour nous dire le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2019, et cela avant le 25 décembre, et nous fêterons vos résultats en début d'année. Merci beaucoup Fabienne Pascot, Fabienne Darge, Gilles Costaz et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au théâtre de l'Alliance française, à la technique, et je les remercie, il y avait Bernard Laniel, Philippe Thibault et Étienne Collin. La réalisation était de Xavier Pestugia. Attention, le prochain enregistrement du Masque, eh bien c'est le mardi 3 décembre, au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.